Tournez avec nous dans Exode 23. Alors ce matin, on complète une petite boucle dans le livre d'Exode qui a commencé au moment où Israël, le peuple d'Israël, est arrivé au pied du mont Sinaï. Et puis à ce moment-là, Dieu a rappelé à Moïse tout ce qu'il avait fait. « Je vous ai porté sur des ailes d'aigle. » Et puis maintenant, on va contracter ensemble une alliance. On va faire un pacte ensemble. Si vous le voulez, vous allez devenir mon peuple officiellement, vraiment. On va s'engager les uns envers les autres. Et donc, Moïse va monter jusqu'à 4 fois sur la montagne, sur le mont Sinaï, pour recevoir de Dieu ses instructions. Et donc, on a vu la semaine dernière le contenu des commandements qui font partie, en fait, du livre de l'Alliance. Il y a comme 2 parties dans ce que Dieu a donné. Il y a les tables de la loi où on trouve les 10 commandements, et puis il y a le livre de l'Alliance où Dieu ventile un peu tout ça, puis détaille un peu tout ça, comme on a dit la semaine dernière, d'accord? Et donc, ce matin, on arrive à la fin de ce moment-là, où Dieu, vous allez voir, Stéphane va relire un passage qu'on a lu la semaine dernière, Dieu va sceller avec Israël son alliance, et ils vont commencer une communion nouvelle avec leur Dieu. Alors, on vous encourage toujours à lire. Vous avez dans le bulletin, vous avez dans le courriel que vous recevez les passages qu'on va lire. Dans les prochaines semaines, des fois, on va couvrir des 5, 6, 7 chapitres par semaine. Il faut vraiment que vous les lisiez pour plonger dedans. On est une église de la parole. Prenez le temps d'aller lire les passages pour vous préparer à recevoir la parole de Dieu. On va prier tout de suite. Père éternel, pendant que j'étudiais ce passage cette semaine, j'étais touché par ton amour pour le peuple d'Israël, Seigneur. J'ai été touché par tous tes soins, ton affection, l'engagement que tu veux prendre envers ce peuple. Combien tu veux prendre soin d'eux, Seigneur. Tu leur as rappelé ta grâce. Tu leur as rappelé que tu les as fait sortir d'Égypte, où ils étaient esclaves, et tu les as conduits au désert, non pour les éprouver, mais pour leur faire connaître comment ce peuple-là nouveau va devoir vivre ensemble pour te refléter, Seigneur. Seigneur, je veux te demander de venir nous parler à nous ce matin. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont entrés dans cette alliance avec toi, ô Dieu. Viens parler à nos cœurs, viens nous donner des instructions ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la parole de Dieu.
Alors, le texte de ce matin se trouve dans Exode, au chapitre 23. Je vais lire les versets 20 à 22. Et ensuite, je vais passer au chapitre 24, les versets 3 à 11. Je vais lire ça dans second 21. Donc, Exode, chapitre 23, 20 à 22, et le chapitre 24, 3 à 11. Alors, le chapitre 23. Voici que j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Fais bien attention à sa présence et écoute-le, ne lui résiste pas. En effet, il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu l'écoutes et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Chapitre 24, verset 3. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les règles. Le peuple entier répondit d'une seule voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, construisit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya de jeunes Israélites offrir à l'Éternel des holocaustes ainsi que des taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et la mit dans des bassines, et avec l'autre moitié, il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous y obéirons. » Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ses paroles. » Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas la main contre les personnalités israélites, Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent.
Merci Stéphane. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire de Jake. Jake, c'est un petit bonhomme qui ne vient pas à l'église ici. Donc, cherchez-le pas dans l'église ici, d'accord? Jake, c'est un petit bonhomme qui n'avait pas eu une vie facile. Pas de parents aimants pour prendre soin de lui puis l'aider à savoir où est-ce qu'il s'en va dans la vie. Donc, sa vie avait commencé vraiment avec énormément de défis. Jake était un gars qui se cherchait lui-même. Non seulement il n'y avait pas des images à suivre, des modèles à suivre, mais il se cherchait lui-même, cherchait son identité, de la difficulté à se projeter dans l'avenir et dire « qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais être? Qu'est-ce que je vais faire? » Jake, c'était quelqu'un comme tout le monde aussi. C'est quelqu'un qui avait ses bébites à lui. Il n'était pas juste une victime d'une vie difficile, mais il avait ses propres problèmes à lui dans lesquels souvent ça l'amenait dans le pétrin. Puis un jour, Jake a rencontré un type qui a eu à cœur de l'aider, qui a eu à cœur de s'investir en lui, de s'approcher de lui. Ça aurait pu être un prof à l'école, ça aurait pu être un coach au sport, ça aurait pu être un voisin, ça aurait pu être un intervenant au centre d'accueil qui fait juste le prendre à cœur puis qui veut le prendre sous son aile, mais quelqu'un de bienveillant vraiment qui voulait lui faire du bien puis qui a décidé de le prendre sous son aile. De fil en aiguille, la relation s'est construite puis ils sont vraiment devenus des amis. Ce type-là qui était beaucoup plus vieux que lui est devenu un conseiller, même un protecteur. Parce que des fois, Jake, ben, je l'ai dit, faisait des niaiseries, puis il se mettait dans le trouble. Et cet ami-là venait à son secours, venait le sortir du pétrin, se portait garant pour lui, même payait pour lui. Fait que pour Jake, c'était tout un revirement dans sa vie. Parce qu'enfin, il commençait à avoir de l'espoir. Il commençait à avoir l'espoir de dire, je vais pouvoir tourner la page puis construire quelque chose avec ma vie. Maintenant, si vous connaissez des gens qui ont eu des vies difficiles, vous savez que ces gens-là ont de la difficulté à croire vraiment dans l'espoir qui se présente à eux. Parce que c'est des gens qu'on a laissé tomber à plus d'une reprise, et lorsque l'espoir se présente, tout de suite, comme une deuxième pensée, celle qui vient immédiatement, rapidement, après la joie qui vient avec l'espoir, c'est le doute qui est là. Ça va durer combien de temps, cette affaire-là? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que j'ai le droit d'y croire à cela? Et puis un jour, son ami a pris un repas avec lui, puis il lui a demandé de s'asseoir, de prendre le temps de jaser ensemble. Et puis il lui a dit, j'aimerais ça faire quelque chose avec toi. J'aimerais ça que tu viennes vivre chez nous. J'aimerais que tu entres dans ma famille. J'aimerais que tu sois pour moi un fils. Et à partir de ce moment-là, Jake savait que l'espoir était réel et que son avenir pouvait se construire. Le vrai nom de Jake, c'est, vous l'aurez peut-être deviné, c'est Jacob. C'est Jacob. Il y a un autre nom aussi, c'est Israël. Israël. Parce que Dieu appelait son peuple Jacob en l'honneur de leur ancêtre Jacob, qu'il avait rebaptisé Israël. Et l'histoire de Jake, c'est l'histoire du peuple d'Israël, qui n'avait pas d'avenir, qui n'avait pas de destinée, qui était mal pris, qui était esclave, sans protecteur, que Dieu est venu secourir, qu'il a conduit au désert, non pas pour les éprouver, mais pour les inviter officiellement à entrer dans sa famille, à devenir leur protecteur. Et l'histoire de Jake, l'histoire d'Israël, ça peut être ton histoire à toi. À partir d'aujourd'hui, ça peut être ton histoire à toi, si tu le veux. Et j'espère que c'est votre histoire à la majorité d'entre vous, comme c'est mon histoire à moi. Ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'il y a de cela très longtemps, Dieu a scellé une alliance de grâce avec Israël. Cette alliance a été parfaitement accomplie bien longtemps plus tard dans la personne de Jésus-Christ. Tout ce qui avait été scellé avec Israël, les sacrifices qui étaient là ont été accomplis véritablement en Jésus-Christ. Et nous pouvons tous, dès aujourd'hui, nous pouvons entrer dans cette alliance de grâce et de communion avec Dieu. Et cette alliance-là t'est offerte à toi. Au moment où on retrouve Israël, Dieu s'apprête à sceller, à officialiser l'alliance, à vraiment s'engager formellement des deux côtés, de la part d'Israël et de la part de Dieu. Et il a un message pour eux, je vais juste vous lire dans Exode 23, 20. « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Et en gros, Dieu leur dit, « Je serai avec vous et je combattrai pour vous. » Je vais être là, je vais vous accompagner et je vais combattre pour vous. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse avant d'aller plus loin dans le message lui-même, parce que on entre à ce moment-là dans l'histoire d'Israël, dans un des aspects les plus difficiles, je crois, pour un occidental de notre époque, à accepter puis à comprendre ce qui se passe là. Parce que dans le passage qu'on traverse ce matin, il est question de guerre, d'accord? Dieu va accompagner son peuple, va aller avec eux, il va les conduire dans un territoire qui est déjà occupé par des nations. Et Dieu dit, je vais être avec vous et je vais vous donner ce territoire-là. Vous allez littéralement exterminer des peuples, d'accord? Et je l'ai déjà dit, j'avais un ami qui venait de temps en temps à l'église, puis il me disait, moi Yannick, le Dieu de l'Ancien Testament, je suis pas capable. Jésus, super cool. Le Dieu de l'Ancien Testament, je ne suis pas capable. À cause de cet aspect-là, de ces guerres qui sont là. Et donc, ce n'est pas facile pour nous de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. D'autant plus que notre vision du christianisme aujourd'hui, je ne parle pas des bêtises qui se sont faites au nom du christianisme, comme les croisades, c'était des hérésies profondes, ces affaires-là, où on massacrait des gens à la pointe de l'épée, tu te convertis ou tu meurs. Mais l'image qu'on a du christianisme, c'est que les chrétiens dans le monde aujourd'hui, ils se font mettre à mort. Je veux dire, à part dans des pays où il y a beaucoup de liberté, dans les autres pays, les chrétiens se font zigouiller, ils se font persécuter, puis ils se font mettre à mort. Et ce qui rend plus difficile aussi la compréhension de ce qui est en train de se passer ici, c'est que dans la pensée de l'homme occidental, l'homme est fondamentalement bon. L'être humain est fondamentalement bon. Et donc, l'idée qu'un être humain devrait faire face à un Dieu qui le juge, c'est comme étrange, cette affaire-là. Dieu peut être amour, mais il ne peut pas être juge, d'accord? Je sais que je radote pour l'Église, vous connaissez ces concepts-là, mais c'est important pour quelqu'un qui rencontre ces textes-là pour la première fois. Ça peut être extrêmement choquant de comprendre ça, mais en même temps, c'est important de le saisir parce que c'est profondément révélateur. C'est révélateur de notre nature humaine, du cœur humain. Si l'homme était fondamentalement bon, l'être humain ne pratiquerait pas des viols. L'être humain ne pratiquerait pas des génocides. Et les peuples avec lesquels Dieu est en train d'entrer en jugement avec son peuple, le peuple d'Israël, ce sont des peuples qui avaient des pratiques barbares, qui avaient rejeté Dieu et qui avaient des pratiques barbares. Si l'homme était fondamentalement bon, il n'y aurait pas de corruption. L'Occident serait pas en train de tuer ses enfants au nom de la liberté. Si l'homme était fondamentalement bon, ces choses-là seraient pas là. L'homme n'est pas fondamentalement bon. C'est pas la société qui nous corrompt. Ça coule dans nos veines. Nous sommes des êtres rebelles. Et ce qui se passe ici, c'est que Dieu va entrer en jugement avec des nations et il va se servir de son peuple. Et lorsque son peuple va s'éloigner de lui, Dieu va se servir à plusieurs reprises des nations environnantes pour entrer en jugement contre Israël. Alors, ce n'est pas non plus une question d'injustice. Dieu est bon et Dieu est juste et Dieu doit apporter la justice par simple intégrité envers sa propre personne. Vous savez, il y a des choses dans vos vies où vous allez dire, « Si je vais être capable de me regarder dans le miroir demain matin, je ne la laisserai pas passer, celle-là. » Ça vous arrive, ça? Il se passe quelque chose au travail, il se passe quelque chose, puis une injustice, quelque chose vraiment d'inacceptable. Puis la pensée qui devient, c'est « si je veux être capable de me regarder dans le miroir, il n'y a pas question que je laisse passer ça. » À chaque instant, Dieu se regarde dans le miroir. Puis il dit « j'ai beaucoup de comptes à régler avec les hommes. » Parce que lui, les nouvelles, là, il ne les attrape pas pendant une heure de 6 à 7. Il les a 24 heures sur 24 devant ses yeux, tout ce qui se passe partout sur la terre, à chaque instant, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos actions. Et donc, c'est ça qui est en train de se passer ici. Dieu va entrer en jugement contre ces nations, et les gens ont toujours la liberté de se repentir, de se tourner. On va assister dans l'Ancien Testament à des conversions, des gens qui vont se repentir, qui vont se convertir, qui vont venir à Dieu. Les hommes sont appelés à venir à Dieu, à se repentir. Et c'est de ça dont il est question ici. Maintenant, petite clarification, c'est pas parce que tu es entré dans une alliance avec Dieu que demain matin, tu peux dire, « Donc, la nouvelle Camaro que mon voisin vient de s'acheter, Dieu va me la donner à moi! » Ou tu peux pas non plus rentrer dans la maison de ton voisin puis dire, « Je viens prendre ce territoire au nom de l'Éternel! » Tu peux pas rêver non plus de prendre les maisons d'en arrière pour dire, « Moi, je vais prendre tout le territoire, j'ai fait une alliance avec Dieu, je peux sortir l'épée, je vais prendre le territoire. » La guerre dans laquelle les chrétiens sont engagés est une guerre spirituelle. Elle est bien réelle. Et ce à quoi on assiste ici en Israël, c'était une économie, c'était pour un temps où le peuple de Dieu allait être visible sur un territoire, ça allait être un pays. Maintenant, Christ nous enseignait à nous que jusqu'à son retour, le territoire qu'il veut conquérir, ce sont les âmes à travers ses serviteurs. Et une âme à la fois, Dieu vient faire la conquête d'un cœur. Et lorsqu'il a conquis celle-là, on est engagé dans une guerre spirituelle. On est engagé dans un combat. Mais on ne combat pas contre les hommes. Notre combat est spirituel. Et je voudrais juste vous lire dans Éphésiens 6, c'est l'apôtre Paul qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et donc, c'est vrai, il y a un combat dans la foi tous les jours, où le péché est présent dans mon cœur autour de moi, et je dois aller dans la parole, je dois répondre selon Dieu, et il y a une véritable guerre qui est là. C'est pas la même guerre qu'Israël se préparait à livrer, d'accord? Mais Dieu leur dit, « Je serai moi-même avec vous, je vais vous accompagner. » Donc, Exode 20, 20 et 21. « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. » On avait déjà vu beaucoup plus tôt dans Exode, au moment où Moïse s'est présenté devant le buisson ardent et qu'il y avait l'ange de l'Éternel qui s'est manifesté là, on avait pris le temps de regarder un peu ensemble à ce moment-là que, en fait, l'ange de l'Éternel et l'Éternel lui-même, l'ange de Dieu et Dieu lui-même, c'est une seule et même personne. Parce que tour à tour, il va parler de l'ange de l'Éternel, puis ensuite de ça, l'ange de l'Éternel va prendre la parole avec toute l'autorité de Dieu. Et la manière qu'il nous le rappelle dans le passage ici, c'est en disant « car mon nom est en lui ». D'accord? Et j'avais mentionné aussi à l'époque, puis je ne vais pas le développer ce matin, la très grande majorité des théologiens reconnaissent chaque fois dans l'Ancien Testament où on voit une manifestation visible quelconque de la personne de Dieu, reconnaissent en cela le Christ pré-incarné. Donc, Dieu le Fils dans la Sainte Trinité qui se manifeste avant qu'il ne devienne Jésus. D'accord? Et donc, tout probablement que c'est ça qui est en train de se passer ici. Dieu le Fils va être présent, va conduire le peuple de Dieu. Et juste encore une toute petite parenthèse pour dire, quand on arrive dans l'Ancien Testament, puis on voit comme ça l'ange de l'Éternel, puis on dit, OK, c'est peut-être une apparition de Jésus, mais il ne ressemble pas au Jésus des Évangiles, tu sais. Gentil, doux, aimant avec tout le monde. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait de la lecture sélective, puis on oublie combien Christ a parlé lui-même du jugement de Dieu. Et si vous voulez avoir une meilleure image de la personne de Jésus qui va être plus complète, d'accord? Vous lisez les évangiles, vous voyez Jésus, ah, il est doux, il est fin, il est compréhensif, il est patient, il va vers les pécheurs, c'est génial. Si vous voulez compléter le topo, là, allez lire Apocalypse 1, où vous avez Jésus, lors de son retour, davantage qui est illustré. Et là, vous réalisez sa grandeur, sa gloire, sa majesté. On lit dans Apocalypse 1, je vais juste lire un tout petit extrait, d'accord? Apocalypse 1, 14, « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la neige. » Jusque-là, ça va bien, il y a de l'air gentil. « Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé par une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. » Intéressant, hein? Dieu s'est révélé sur le mont Sinaï à travers le tonnerre. Et lorsque Christ va se manifester, sa voix va être comme un tonnerre, comme de grandes eaux, un bruit énorme. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait un épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. » Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et ça, c'est Christ. Ça, c'est Jésus-Christ dans sa gloire, dans sa majesté. Et donc, probablement que c'est ça qui s'est passé à ce moment-là. Mais ce qui est important de retenir, c'est que Dieu est en train de dire à Israël, « Je vais être avec vous. » Et ça, c'est un des thèmes les plus importants dans la relation entre Dieu et son peuple. Un des thèmes les plus importants, c'est que Dieu va toujours être là pour accompagner son peuple, pour être avec eux, pour marcher avec eux. Dans le Nouveau Testament, ce thème-là est réintroduit par l'œuvre de l'Esprit-Saint, d'une manière plus grande encore. Alors, on va le voir un peu la semaine prochaine avec Miguel, avec toute l'adoration, puis avec le temple, le tabernacle. Miguel va prendre le temps de développer ça, je ne veux pas aller plus loin là. Mais c'est un thème important, et dans le Nouveau Testament, c'est à travers l'Esprit-Saint que ça se manifeste, où Dieu nous donne la promesse qu'il va lui-même être avec nous constamment. Je fais simplement vous lire dans Jean 14 les paroles de Jésus. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. » Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera avec vous. Et le rôle qu'on voit de l'Esprit-Saint, c'est celui de protéger, de garder, de conduire. Et donc, pour nous comme chrétiens, ce thème-là, où nous entrons dans une alliance avec Dieu, puis Dieu nous promet, à travers tes épreuves, à travers tes difficultés, je vais toujours être avec toi. D'une manière plus grande et plus belle encore que dans l'Ancien Testament, parce que l'Esprit-Saint est donné aux croyants. Il vient faire sa demeure en nous. Et d'une certaine manière, nous devenons nous-mêmes, c'est ce que l'apôtre Paul va dire. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et donc, Dieu leur donne la promesse, « Je vais être avec vous ». Maintenant, Dieu leur dit quelque chose de super important. Il leur dit, « Écoutez, soyez sensibles à mes paroles. Soyez sensibles aux paroles de l'ange que je vais vous donner. » Et puis, il dit, « Il ne vous pardonnera pas vos péchés. » J'ai brassé ça dans ma tête, j'ai lu dans mes commentaires bibliques. De quoi il parle? Il ne pardonnera pas les péchés. Tout de suite après, il va offrir des sacrifices. Il va instaurer ça, qui est le moyen par lequel Israël peut revenir pour justement être pardonné de ses péchés. Et ce que je comprends dans cette mise en garde-là que Dieu est en train de donner, c'est l'image d'une guerre, d'accord? Israël s'en va au front, il va y avoir un paquet de tentations de se pousser quand ils vont être au front. Vous avez vu des films sur la guerre et lorsque tu avances dans les tranchées, à un certain moment donné, je veux dire, tu veux juste te pousser de là, tu veux juste paralyser puis t'arrêter. Et ce que tu as à faire à ce moment-là, c'est simplement d'écouter les directives de celui qui te dirige au front. Il n'y a pas de questions à poser, t'as pas l'idée claire sur où est-ce qu'on en est l'armée. Suivez-moi, écoutez les directives. Avancez avec moi. Et lorsqu'Israël ne le fera pas dans la suite de son histoire, Israël va pécher. Lorsqu'ils vont douter des directives de Dieu, alors qu'ils chicken out, ils ont peur, ils sont pissous, ils veulent se sauver, c'est trop gros ce qui est devant nous. Chaque fois qu'ils ne vont pas écouter, il va y avoir des conséquences à ça. Et c'est de ça dont Dieu est en train de parler ici. Et c'est la même chose pour nous. Dieu veut t'accompagner dans tes difficultés conjugales. Dieu veut t'accompagner dans tes défis personnels, des domaines où tu luttes avec des péchés dans ta vie, où il y a des idoles dans ta vie. Dieu veut être avec toi, il veut être là pour toi. Maintenant, est-ce que, comme peuple de Dieu, on garde à l'esprit cette importance de prendre le temps d'écouter, de m'arrêter, d'ouvrir les Écritures le matin? C'est pour ça qu'on fait ça, hein? J'ouvre les Écritures le matin, puis je dis, « Seigneur, donne-moi tes instructions pour aujourd'hui. Je la connais, la parole, ta parole, mais j'ai besoin que tu viennes l'appliquer dans mon cœur. J'ai besoin que tu viennes ranimer mon zèle. J'ai besoin qu'il y ait un contexte à tout ça. » Puis quand j'arrive dans des situations où je dis, « Qu'est-ce que je dois faire, si Seigneur? Je vais faire une étude biblique. Je vais étudier les Écritures. » C'est pour ça qu'on a des cours bibliques. C'est pour ça. On est dans les Écritures parce qu'on veut apprendre à écouter Dieu. Parce que lorsqu'on est dans le combat, il faut que la parole de Dieu soit près de mon cœur pour que l'Esprit-Saint puisse s'en servir et que je continue à l'écouter. Puis il va leur dire aussi, détruisez. Vous détruirez toutes les idoles des territoires où vous allez aller parce qu'ils vont être des tentations pour vous. Et j'aime bien cette citation de Tony Merida qui dit, bien souvent nous ne voulons pas reconnaître qu'il y a des idoles dans nos vies et dans nos cœurs. On vient à une époque où on dit, ben là, c'est parce que Yannick, t'es pas venu chez nous, j'ai pas de petit hôtel avec plein d'idoles. Puis je veux dire, il y a des religions aujourd'hui qui le font encore, mais moi, j'ai pas ça chez moi, tu sais. Et j'aime bien comment est-ce qu'il dit ça, parce que l'apôtre Paul nous dit que les idoles, ce sont ces choses bonnes que Dieu a créées qui viennent prendre une place malsaine dans nos vies. Souvent, c'est ça. Parfois, c'est carrément péché, mais d'autres fois, ce sont des choses bonnes. J'aime comment il dit ça. Vous pouvez savoir qu'une chose est une idole quand tu es prêt à pécher pour l'obtenir ou quand tu vas pécher si on te l'enlève. C'est bien dit, hein? Tu peux savoir, même les choses bonnes dans ta vie, si c'est devenu une idole, si tu es prêt à pécher pour l'obtenir, ou si tu vas te mettre à pécher si on te l'enlève. C'est une idole dans ce cas-là. Parce que c'est venu prendre la place de Dieu. Il complète en disant, quand ces bons et saints désirs deviennent des idoles, nous aimons et adorons quelqu'un ou quelque chose à la place de Dieu. Je trouve que c'est tellement bien résumé. Tellement bien résumé. Et donc, Dieu veut nous conduire dans ces victoires-là comme il veut conduire Israël. Pour ça, il faut qu'on apprenne à l'écouter. Puis il faut qu'on soit prêt à faire face aux idoles dans nos vies, être prêt à les rejeter carrément, complètement. Et Dieu leur dit, je vais vaincre pour vous. C'est moi qui vais la livrer, la bataille pour vous. C'est ce que Christ a fait pour nous lorsqu'il est allé à la croix. Il a vaincu la mort, il a vaincu le diable. On sait déjà que la victoire est acquise, mais en même temps, au quotidien, il nous dit, résister au diable, renoncer au mal. Alors, j'ai une action à prendre pour suivre Dieu et renoncer concrètement à des idoles dans ma vie. Mais Jésus nous dit dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et tout ce qu'on a à faire, c'est à le suivre, à l'écouter quotidiennement puis à le laisser nous diriger. Et quand Israël a accepté l'invitation de Dieu, c'est une alliance qu'ils ont contractée avec Dieu. À ce moment-là, c'est une alliance qu'ils ont contractée avec Dieu, un peu comme un mari et une femme qui vont s'épouser, qui vont se marier ensemble et qui vont prononcer des vœux. Alors, deuxièmement, qu'est-ce qu'on voit dans le passage ce matin? Dieu va leur dire, scellons ensemble une alliance de grâce. Il vous invite à sceller officiellement, à officialiser une alliance de grâce ensemble. Puis on voit que dans une alliance, il y a deux parties. Deux parties sont engagées dans une alliance. Ce n'est pas simplement l'un ou l'autre. Et donc, on lit dans Exode 24, 3, « Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. » La semaine dernière, on l'a dit, la réponse unanime, d'une seule voix, comme un seul homme. Israël va répondre, puis il va dire, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » C'est intéressant, il y a, dans le récit, c'est comme s'il y a plusieurs moments où Dieu, où Israël va dire à Dieu, « On va tout faire. Moïse, donne-nous tes instructions, on va te suivre. » Et puis même dans ce passage-là, il y a une première fois au début, puis à la fin, Moïse va tout relire le texte de l'Alliance, et là, ils vont sceller ça officiellement. Un petit peu comme la première fois lorsque je suis allé voir Esther, j'ai dit, « Esther, est-ce que tu veux m'épouser? Est-ce que tu veux devenir ma femme? » Si elle répondait non, là, ça s'arrêtait là. Je partais, mes amis. Heureusement, elle a dit oui. Elle a dit oui. Et quelques mois plus tard, devant le pasteur, qu'est-ce qu'on a fait? On a échangé des vœux ensemble. Et lorsque le pasteur a posé la même question, « Yannick, est-ce que tu veux épouser Esther? Esther, est-ce que tu veux prendre Yannick pour époux? » Tous les deux, on a dit oui. Mais on a échangé des vœux qui exprimaient ce dans quoi on s'engageait. Et c'est ça qui est en train de se passer ici. Et si j'avais une comparaison à faire avec la marche du chrétien, ce serait avec le baptême. Ce serait avec le baptême. La comparaison est imparfaite, d'accord? Parce que lorsque je place ma foi en Jésus-Christ, je deviens chrétien, je suis sauvé à ce moment-là. D'accord? Mais en même temps, lorsque je décide, comme Olivier la semaine dernière, de prendre position publiquement, en lisant mon témoignage, en me faisant baptiser, en passant par les eaux du baptême, je suis en train de sceller cet engagement-là publiquement devant les hommes. Engagement que j'ai pris avec mon Dieu. Et peut-être que c'est ça que Dieu t'appelle à faire en 2017. À prendre cet engagement-là formel avec Dieu. Devant des amis que tu vas inviter qui vont venir écouter ça. Ils savent que tu es un peu débile, un peu flyé, Jesus freak, mais là, ils vont vraiment comprendre que tu es vraiment un Jesus freak. Parce que tu es entré dans une alliance, dans un mariage avec Dieu. Et cette alliance-là est scellée dans le sacrifice du sang. Exode 24, 5 à 8, « Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes, immoler des taureaux, des sacrifices d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il le répandit l'autre moitié. Il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et il le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous obéirons. » Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple. Faites-vous en pas, ça n'a pas été comme... On parle d'un million de personnes, OK? Parce que c'est par le sacrifice que Dieu va pardonner les êtres pécheurs. Laissez-moi juste vous lire deux passages brefs dans le Nouveau Testament. Dans Hébreux 9, 22, on lit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Maintenant, ces sacrifices-là d'animaux qu'il y avait dans l'Ancien Testament, ça peut nous sembler abominable, étrange, bizarre, mais tout ça annonçait, on le dit souvent à l'Église, le sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice, je peux te dire comme ça, de l'ange de l'Éternel, qui allait venir plus tard, qui était là, qui savait. Il savait au moment où Israël est entré dans l'Alliance que des années plus tard, ce serait avec son propre sang qu'il viendrait sceller cette alliance. Dans 1 Timothée 2, 5 et 6, on lit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, pas seulement qui est venu plaider, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Et ce matin, Dieu t'invite à entrer dans l'alliance avec lui si ce n'est pas déjà fait. Dieu t'invite à accepter cette grâce qu'il te fait, qu'il t'offre, de te pardonner tous tes péchés. Si tu reconnais que tu es un être rebelle, fondamentalement tu es pécheur, comme tous les êtres humains. Et c'est la première condition pour devenir chrétien. C'est pas de croire que Jésus est extraordinaire. Ça vient, ça prend de la perspective, mais c'est premièrement de reconnaître que j'ai besoin. Je suis pécheur, je suis pas à la hauteur de Dieu. Et ensuite, je découvre la beauté de l'Évangile qui est là, puis le sacrifice de Christ, puis j'accepte cette grâce-là pour ma propre vie. Et entrer dans une alliance avec Dieu, ça veut dire entrer en communion avec Dieu. Et je termine avec ceci ce matin. Dieu va leur dire, entrez maintenant dans une communion de gloire. Il y a quelque chose de beau qui se passe à la toute fin de ce passage-là. Elle est importante parce qu'elle est riche en application pour nous, puis elle est glorieuse. Dans Exode 24, 1 et 2, d'accord? Jusqu'à présent, seul Moïse, des fois accompagné de son fidèle écuyer, Josué, peut entrer dans la présence de Dieu, d'accord? Mais regardez bien ce qui se passe dans Exode 24, 9 à 11. L'alliance est scellée, et voici ce qui se passe. Moïse monta avec Nadab et Abihu, les deux fils d'Aaron, et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, ils mangèrent et burent. Et Dieu est en train de confirmer que son alliance n'est pas simplement avec Moïse. Jusqu'à présent, ils étaient menacés. S'ils s'approchaient de Dieu, seul Moïse pouvait le faire. Ils allaient mourir, littéralement. Mais après avoir scellé l'alliance, 74 hommes se sont présentés dans la présence de Dieu, les représentants du peuple de Dieu. Et ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu Dieu, nous dit les Écritures. Et Moïse prend le temps de préciser, ils n'ont pas été éliminés à ce moment-là. Dieu n'a pas étendu sa main. Pourquoi est-ce que Dieu les a pas frappés alors qu'ils sont des pécheurs? Parce qu'ils sont couverts par le sacrifice. Ils ont eu foi dans ce sacrifice-là. Et donc, ils ont pu voir la gloire de Dieu. Ils sont entrés dans une communion avec Dieu. Et comprendre la foi chrétienne, c'est saisir que Dieu entre en communion avec toi, avec moi. Il est bien réel, il est bien là. Je ne le sens pas tout le temps, mais il est bien là. Il est bien réel, il est en communion avec moi. Et Dieu le fait de la plus belle manière lorsqu'il décide de partager un repas. La fin de ce passage-là dit, « Ils mangèrent et burent. » Pendant qu'ils sont là dans la présence de Dieu, Dieu leur a servi un repas pour qu'ils mangent. Et ce thème-là des repas de communion sont présents à travers toutes les Écritures, mais on va évidemment, comme chrétiens, le voir réapparaître, n'est-ce pas, au repas du Seigneur, la dernière Pâque que Christ va prendre avec ses disciples. Il va partager un repas avec eux, et ce repas-là, il va leur expliquer que ça signifie son corps qui est brisé au bois, son sang qui est versé, mais on retrouve aussi un festin à la fin de l'Apocalypse, lorsqu'on va être avec Dieu dans la gloire, où on va prendre un repas, encore une fois, qui symbolise de manière parfaite cette notion-là de communion. Dieu t'invite à un festin, à prendre un repas avec lui. Et lorsqu'on se réunit en église puis on prend le repas du Seigneur, on peut se rappeler de ce moment-là où Dieu a invité ses hommes à venir dans sa présence et ils ont vu sa gloire. Et eux n'avaient pas vu encore la gloire de Christ. Jean nous dit, on vient juste de terminer avec ça au mois de décembre, Jean nous dit, nous avons vu sa gloire. La gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous avons connu comme chrétiens la gloire de Dieu parce que nous avons vu la gloire de Dieu sur le visage de Christ en comprenant l'Évangile. Maintenant, ça m'amène à vous dire ceci aussi, en terminant pour comme application. Cette idée-là de communion, cette idée-là de repas est extrêmement importante dans l'Église. Si vous allez lire le livre des Actes, vous allez voir au tout début du livre des Actes cette notion-là de communion où l'Église se réunit, ils partagent un repas ensemble, vont prendre le repas du Seigneur ensemble, parce que cette notion-là de communion, quand Dieu vient sauver un individu, il l'invite à entrer dans sa maison, à partager son repas, à faire partie de la famille, à être assis à table avec lui. Et Dieu se sert de ça en Église lorsque nous... Quand vous allez vous inviter les uns les autres cette année, quand vous allez inviter un frère, une sœur de l'Église, vous allez dire, hey, « Viens manger chez nous. » Pensez à ce passage-là. Parce que cette notion-là de communion entre frères et sœurs qui est là, c'est une sainte communion qui est présente. Parce que l'Esprit de Dieu est là, qui habite en nous, et il se réjouit de voir que l'Évangile a créé un peuple nouveau, un peuple de l'Alliance qui est en communion ensemble. On n'a pas beaucoup de choses en commun, chacun d'entre nous. On vient d'un peu partout sur la planète, toutes sortes d'histoires familiales, toutes sortes de hobbies, toutes sortes d'intérêts différents. Mais on a une personne, Jésus-Christ, qui nous a permis d'entrer dans une alliance par laquelle on est en communion avec Dieu et on est en communion les uns avec les autres. Et je vais aller plus loin encore. On a vu dans les dernières semaines comment Israël était appelé à se comporter envers l'étranger qui arrivait au milieu d'eux. Il était appelé à prendre soin de l'étranger, certainement à l'inviter à sa table. C'était la réputation de Jésus, hein? Jésus était avec les gens de mauvaise vie, il allait manger avec eux. Dieu nous appelle, comme chrétiens, pas attendre que nos voisins non-chrétiens nous invitent, ou les collègues de travail, ou des gens à la bouffe pour tous, ou n'importe où. Dieu nous invite, nous, comme chrétiens, à inviter des gens. J'ai aimé ce que Miguel a fait tout à l'heure lorsqu'il a dit « Hey, le Super Bowl s'en vient, c'est le temps. » C'est vrai que c'est le temps. C'est vrai. OK, vous allez manger des ailes de poulet, vous mangerez d'autres choses aussi. Mais c'est vrai que c'est le temps. Il y a le Super Bowl dans deux semaines. De rassembler quelques-uns de vos amis de l'Église, puis d'inviter des amis qui ne sont pas chrétiens, puis juste d'être dans ce moment-là de communion ensemble, où ils découvrent la vie chrétienne par le plaisir qu'on a qui est sain, puis tout est bon. Puis on a du bon temps, puis ils découvrent notre vie. Et c'est une des plus belles grâces que vous allez pouvoir faire en 2017 à quelqu'un. Quand vous allez inviter des collègues de travail, des amis, des gens qui ne connaissent pas la communion de Christ, à manger chez vous, puis vous invitez un ami chrétien, puis partage ce moment-là. On l'a vécu, nous autres, encore pendant les fêtes. C'est vraiment un moment extraordinaire. Ça m'a frappé quand j'étais en train de lire le passage, de voir que Dieu leur a servi un repas parce qu'ils étaient en communion avec lui. Et la manière la plus concrète de l'illustrer, c'est, regardez, je vais vous nourrir, les amis, vous allez voir ma gloire, la gloire de Dieu. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. L'histoire de Jake, c'est l'histoire d'Israël. C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui n'avait pas d'avenir, qui n'était pas aimé, qui n'avait pas de modèle dans sa vie, qui ne connaissait pas son identité, qui la cherchait. L'histoire de Jake, c'était l'histoire d'un petit bonhomme qui était pris dans toutes sortes d'esclavages. Parce qu'on le voit dans la suite d'Exode, lorsqu'Israël quitte l'Égypte, ils ont quitté l'esclavage physique, mais ils ont apporté avec eux dans leur cœur bien des idoles de l'Égypte. Ils sont esclaves maintenant du péché. Et ça, c'est l'histoire de Jake. Mais dans l'histoire de Jake, un jour, il y a une personne qui est entrée dans sa vie, un bienfaiteur, qui l'a aimé, qui l'a chéri, puis qui éventuellement l'a invité à rentrer dans sa maison, à faire partie de sa famille. C'est l'histoire du peuple d'Israël. C'est notre histoire à nous si on est chrétien. On est Israël. Et Dieu nous a invités à rentrer dans une alliance avec lui. Où il nous a dit, je vais être avec toi tous les jours dans les épreuves de ta vie. Je vais t'accompagner, je vais combattre pour toi. Sois attentif. Écoute-moi, reçois mes instructions. Je vais te donner les victoires. Tu n'y crois pas, je suis là, je vais être avec toi. Et cette alliance-là, je l'ai scellée par mon sang sur la croix. Comment pourrais-tu douter que je vais être là avec toi si j'ai donné mon Fils? Comment tu pourrais te douter un seul instant de ma fidélité, de mon amour pour toi? T'es rentré dans une communion nouvelle. Et ce matin, si c'est ton histoire, si t'es Jake et que Dieu t'invite à rentrer dans cette alliance, tu peux le faire là, ce matin, dans la prière. Tu peux dire, Seigneur Jésus, je veux te suivre, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin d'entrer dans cette communion-là avec toi. Tu peux accrocher n'importe qui ici à l'église, aller prendre un café cette semaine, dire, explique-moi, là, c'est bon, mais c'est bizarre, je sens que j'en ai besoin, mais je comprends pas tout encore, il y a comme quelque chose peut-être que je dois laisser aller. Et Dieu t'invite à rentrer dans cette communion. Dans 1 Timothée 2, 3 à 6, on lit ceci. Alors que Dieu, que Paul est en train d'exhorter l'Église à prier pour le salut de tous les hommes, il dit ceci, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, entrent dans cette communion et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » On va prier ensemble. Père éternel, j'étais vraiment cette personne-là perdue, confuse. C'est pas que personne ne m'avait aimé dans mon enfance, ce ne serait pas vrai dans mon cas, Seigneur, mais j'étais vraiment ce petit bonhomme-là, confus, sans direction, pris avec mes bébites, mes péchés, mes problèmes. Et dans ta grâce, tu m'as conduit à l'écart. Pour parler à mon cœur et te séduire mon cœur, Seigneur. Tu as séduit mon cœur. Tu m'as convaincu de ton amour et de ta grâce. Et je compte aussi, Seigneur, comme une grâce qui vient de toi. Lorsque dans mon cœur, j'ai cru en toi. Et j'ai décidé de me repentir de mes péchés. Et pour ma part, Seigneur, c'était simplement de dire, « Je veux te suivre. » Je veux écouter tes instructions, Seigneur. Je ne veux plus diriger ma propre vie, Seigneur. Et tu m'as accueilli dans cette communion, dans cette famille nouvelle, Seigneur. Je prie ce matin, Seigneur, parle à nos cœurs par la louange. Instruis-nous, excite-nous, Seigneur, par cette communion nouvelle, cette alliance nouvelle, Seigneur. Et convainc ceux qui ont besoin de saisir cette grâce. D'entrer dans une alliance avec Dieu. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.